Le journal, Mimi Ngumba Moulongo. Les titres du journal, tentative de retour en RDC de militaires ex-phase se trouvant au Congo-Brazzaville. Plus d'une centaine se trouvaient il y a 2 heures au port de Brazzaville pour cette opération. Pour le moment, la traversée entre ces deux pays est suspendue. Vers un trafic d'enfants dans les Bas-Congo, deux femmes ont été interpellées avec 2 enfants ne leur appartenant pas. Elles cherchaient à se rendre à Mwanda. Cela s'est passé à Boma, week-end dernier. Bouclage sur les principales artères de Bukavu depuis hier. Il s'agit simplement d'un contrôle de l'assurance automobile chez les conducteurs. Ce bouclage est mené par la SONAS et la police spéciale de roulage. À tous et à toutes, bonjour. L'ONG La Voix des Sans-Voix a diffusé le week-end dernier un communiqué faisant état du rapatriement à partir de ce mardi de militaires de la République démocratique du Congo exilés au Congo-Brazzaville. Parmi ces militaires, la majorité est constituée des éléments de ex-forces armées zaïroises FAS. Radio Capi a tenté toute la journée d'hier d'avoir la confirmation sur ces rapatriements auprès de la présidence de la République ainsi que des ministères de l'Intérieur et de la Défense de la RDC. Aucune autorité ne s'est exprimé sur cette question. Mais aujourd'hui, de l'autre côté du fleuve à Brazzaville, une centaine de ces ex-FAS étaient amassés au port de Brazzaville dans l'espoir de prendre des bateaux pour regagner Kinshasa. Tout de suite, nous rejoignons notre correspondant Arsène Séverin qui est au port de Brazzaville.
189 ex-FAS, leurs épouses et leurs enfants, ont pris d'assaut le beach de Brazzaville dans l'espoir de se rendre à Kinshasa ce matin. Surprise de la part du service d'immigration du beach de Brazzaville qui affirme n'avoir reçu aucune notification concernant ce départ. Ils ne sont pas en étage ici, ils ne partiront pas parce que leur situation n'est pas régulière, a indiqué un officier congolais. Et pourtant les ex-FAS dirent avoir écrit aux autorités des deux pays et aux organisations internationales. Mais ni le ACR ni autre organisation internationale n'a été sur les lieux. Le capitaine Ambroise Cousin, qui a organisé cette entreprise, est resté longtemps s'expliquer avec la police de frontières. Cette situation a perturbé le trafic fluvial entre Brazzaville et Kinshasa. À 10h30, un régulier de ATC a été refoulé sur Brazzaville car le beach Ngobila de Kinshasa serait fermé. Ces réfugiés traînent encore sur le beach de Brazzaville, tenant à tout prix à rentrer à Kinshasa. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Okapi.
Traversons les fleuves Congo, cette fois pour retrouver au beach Ngobila de Kinshasa notre reporter Jean-Claude Toumba Kamanga qui suit la situation côté RDC.
La traversée sur le fleuve de Kinshasa à Brazzaville est suspendue en ce moment. En effet, le premier bateau de la RDC qui devait quitter Kinshasa à 9h pour Brazzaville reste accosté au beach avec tout son équipage. Au moment où je vous parle, les passagers du bateau et tous les porteurs de bagages quittent le beach Ngobila. Ils disent avoir reçu l'ordre de regagner leur maison à cause du retour volontaire d'un groupe des militaires des ex-forces armées zaïroises. Les passagers et les porteurs sont mécontents de la perturbation du trafic. Pendant ce temps, quelques officiers militaires sont postés au beach. Certains agents de l'ONACA disent avoir vu une patrouille sur le fleuve, une patrouille militaire aux abords du beach. Depuis le beach Ngobila à Kinshasa, Jean-Claude Toumba Kamanga, Radio Okapi.
Autre chose, à prison à Matadi dans le Bas-Congo, deux jeunes femmes accompagnées des deux petits garçons âgés d'au moins une année et ne leur appartenant pas ont été présentées par le service des sécurités Bas-Congo au gouverneur de province. C'était le week-end dernier. Les deux jeunes femmes, arrêtées à Boma par le service de l'ANR, sont soupçonnées être complices d'un réseau des trafics d'enfants pour l'Angola. Le point avec Marcel Ngombo.
Au niveau du parking de Boma que les deux jeunes femmes ont été appréhendées alors qu'elles tentaient de joindre Mwanda pour l'Angola. Selon le directeur provincial de la Direction générale des migrations Bas-Congo, ce sont les cris et les pleurs incessants de ces deux petits-enfants qui ont fini par attirer l'attention des agents de l'ANR Boma. Interpellées, les deux jeunes femmes après interrogation ont fini par avouer que les deux petits garçons n'étaient pas leurs enfants. C'est plutôt une dame répondant au nom de Mégé qui leur avait demandé de prendre ses deux enfants sous leur protection et de les amener en Angola où elle les aurait déjà précédés. Pour l'heure, les deux jeunes femmes sont mises à la disposition de la justice et les deux petits garçons sont pris en charge par la Direction provinciale des affaires sociales Bas-Congo. Toujours selon le directeur de la DGM Bas-Congo, cette dame du nom de Mégé n'en est pas à son premier coup du genre. Déjà, en janvier 2004, elle avait été arrêtée et mise à la disposition de la justice pour trafic d'Ouest-Africains en Angola. Martin Gombo, Matadi, Radio Okapi.
Nord Kivu à présent, Goma sans cataracte, c'est une opération lancée hier lundi sur l'ensemble de cette ville par les centres de la communauté baptiste et les diocèses de Goma. Selon des ophtalmologues de Goma, 1% de la population de ces chefs-lieux est aveugle et la moitié de toute la population souffrirait de la cataracte. Ainsi, 23 centres de consultation ont été installés dans les différents quartiers de Goma pour détecter les malades. Ce dernier devront payer $5 américains au lieu des 100 $ exigés auparavant pour subir une intervention chirurgicale. Déjà ce mardi, sur plus de 30 cas consultés, 18 devront être opérés, parmi lesquels cet homme de plus de 60 ans.
Mes yeux ne voient plus. Quand je regarde quelqu'un, je le vois en double. C'est depuis plus de 8 ans que je suis malade. Ça a commencé par des maux de tête et d'yeux. Et puis, j'avais du mal à visualiser la nuit. Je ne vois rien. Depuis tout ce temps, je n'avais jamais été soigné. Je dois être opéré car c'est le médecin qui vient de décider.
Sachez aussi que cette campagne devra durer 3 mois avant de s'étendre dans d'autres coins du Nord Kivu. Bientôt, la route Kisangani-Yangambi sera réhabilitée par l'UNOPS avec l'appui financier de l'Union européenne. D'un coût global de 3 millions de dollars américains, les travaux dureront 20 à 26 mois à partir de ce jour. Monsieur Germain Ulgutsch, coordonnateur de l'UNOPS en République démocratique du Congo, parle de l'importance de cette route. Il est au micro de André Kitenge.
Vous savez que Yangambi, c'était le centre de recherche agronomique le plus renommé de toute l'Afrique. L'effet d'ouvrir ces routes, outre la possibilité pour les populations paysannes d'évacuer ces produits agricoles vers Kisangani et recevoir des produits manufacturés de Kisangani, et ça va permettre, nous espérons, dans le futur, une relance de ces centres économiques. Il faut en même temps, on va réhabiliter les deux bacs, donc les bacs de Simisimi et les bacs de Kisangani. Ce qui va nous permettre, étant donné qu'on fait la réhabilitation de la route Ubundu-Kisangani, comme vous le savez, sur un financement britannique, on fera la liaison déjà Ubundu-Yangambi, et espérons que dans le futur, il puisse encore s'étendre.
Sud Kivu, grosse opération de bouclage depuis hier matin sur les routes principales de la ville de Bukavu. Les chauffeurs des véhicules sont soumis au contrôle jumelé de la SONAS et de la police spéciale de roulage. La SONAS exige la souscription obligatoire à l'assurance automobile. Quant à la police de roulage, une amende de contravention routière au cas où les conducteurs roulaient sans cette assurance. La SONAS affirme que seuls 20% des voitures sont assurées à Bukavu. Félix Kalongi, chef d'agence de la SONAS, explique au micro de Delphine Amoutou.
Vous savez, cette assurance est rendue obligatoire. Cette assurance est bénéfique au niveau social. Il y a beaucoup de véhicules qui font des accidents et qui ne sont pas couverts. Alors, nous prenons nos responsabilités et nous voulons faire en sorte que les usagers de la route soient couverts de façon que, lorsqu'il y a un sinistre, que nous puissions aisément intervenir. Mais nos statistiques nous font voir que pratiquement, au regard du parc automobile de la ville, à peine 20% sont assurés. Donc c'est une inquiétude. Les restes, c'est vraiment des véhicules qui roulent dans l'irrégularité. Il y en a même qui ne sont pas immatriculés. Il y en a qui sont immatriculés, qui ne sont pas assurés. Il y en a qui ne sont pas immatriculés, qui ne sont pas des circuits assurés. Donc nous voulons un peu mettre de l'ordre.
Et puis en Ituri, la réunification de certaines entreprises de l'État pose encore problème. C'est le cas notamment de la Société nationale d'assurance SONAS, dont le siège du district est situé à Bunia. Les opérateurs économiques en provenance de Mahagi ou Ouattara se plaignent de tracasseries administratives dont ils sont victimes à l'agence de Bunia. Ils sont contraints de payer leurs taxes à deux reprises puisque les bureaux de Bunia ne reconnaissent pas les documents délivrés par la SONAS Mahagi, par exemple. Constant Boubulenga, président de la Fédération des entreprises du Congo en Ituri, se plaint.
Il dit que les documents délivrés par SONAS Mahagi n'est pas juste. Mais je me pose question, même s'il n'y a pas de la mainmise sur SONAS Mahagi, mais leur bureau se trouve au chef-lieu de district, d'où il y a un responsable à la personne des commissaires de district. D'où il peut aller se plaindre? Pourquoi, tout en sachant que les documents délivrés par SONAS Mahagi est faux, ne se plaît pas contre SONAS Mahagi, soit à la justice, au lieu de s'attaquer en commerçant?
Pour le chef intérimaire de l'agence SONAS à Bounia, un problème se pose au niveau de l'agence de Mahagi. Selon lui, certains commerçants de la cité s'arrangent frauduleusement avec la SONAS Mahagi pour réduire le taux de taxes à payer à l'État sans respecter la nomenclature officielle. Paulin Kalobo.
Nos amis qui sont à l'intérieur sont en train de tromper les commerçants en leur remettant les documents qui ne sont pas corrects. La SONAS est nationale, nous devons avoir tous les mêmes tarifs. Mais comment expliquer une camionnette Stout qui doit payer 483 $, ça vous paye en Mahagi 50 $ par an. Comment pouvez-vous expliquer ça? Alors nous avons demandé aux commerçants qui sont allés prendre les papiers à Mahagi de venir chez nous comme ça pour régler la situation ou réajuster la tarification.
Ces propos ont été recueillis par Aliana Alipanagama. Au Kasaï occidental, après les territoires de Dibaya, Dimbelenge et de Kazumba, les tribunaux des grandes instances de Kananga en chambre foraine dans les territoires de Luisa. De magistrats et avocats séjournent dans ce territoire grâce à l'association internationale Avocats sans frontières, ce qui permet aux habitants de Luisa et ses environs de voir leurs dossiers judiciaires tranchés rapidement. Marie-Chantal Lumba, reportage.
La première audience de la chambre foraine du tribunal de grande instance s'est tenue ce lundi à Luisa. Le greffier affirme avoir plus de 100 dossiers, parmi lesquels une soixantaine sont en cours. Cela fait plus de 9 mois que les habitants de ce territoire, même pour des affaires banales, attendaient l'arrivée des magistrats ou carrément devaient se rendre à Kananga, à plus de 200 kilomètres. Pour les habitants de Luisa, cette façon de rapprocher les justiciers des justiciables présente plusieurs avantages. Cela diminue le coût de transport et des frais de séjour qu'ils sont obligés à payer en se rendant à Kananga. À cela s'ajoute la rapidité avec laquelle les dossiers sont traités, le tribunal de grande instance étant son séjour sur 3 semaines. Et selon le président des chambres, le tribunal prononce le plus de jugements tout en respectant la procédure judiciaire. L'association Avocats sans frontières, à part l'appui logistique qu'elle apporte au tribunal de grande instance de Kananga, prend en charge des avocats qui pourront défendre gratuitement les indigents. Une façon, selon l'association, de lutter contre l'impunité. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Okapi.
Le vice-président Arthur Zaïdi Ngoma a annoncé samedi 15 octobre à Kananga l'ouverture officielle de l'année académique 2005-2006. Pourtant, sur terrain, on constate que la quasi-totalité des universités et autres instituts supérieurs n'a pas encore clôturé l'année 2004-2005. Chaque université ou institut supérieur présente ses raisons sur les non-respects du calendrier académique, tel qu'a pu les constater Jocelyne Moussaoupondé.
À l'Université pédagogique nationale, on attend une semaine pour la délibération de la deuxième session. Le cours ne pourra en reprendre que le 24 octobre prochain. Date retenue aussi pour l'Université de Lubumbashi et l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Pour le directeur général de l'ISC, la date du 15 octobre fixée par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire est indicative. Chaque institut ou université fixe sa rentrée en fonction des réalités internes. Il est notamment question, a-t-il dit, de clarifier la situation des étudiants ajournés, des nouveaux inscrits et l'affectation de nouveaux professeurs. Du côté de l'université de Kisangani, la rentrée est prévue pour le mois de novembre. À l'université de Kinshasa, la situation est plutôt confuse. À la cérémonie des collations des grades le 8 octobre dernier, seules les facultés des lettres, médecine, sciences sociales et droit ont clôturé l'année 2004-2005. Les autres facultés achevaient encore l'année 2003-2004. Difficile dans ces conditions de parler de l'uniformisation de la rentrée académique.
Avant de clore ce journal, lancement du premier décrochage provincial ce mardi 18 octobre au Katanga. La station de Lubumbashi aura désormais une heure d'antenne dans l'après-midi pour les informations provinciales. Avec ce nouveau décrochage Katanga, Radio Okapi voudrait accroître son réseau d'auditeurs à travers la province. Le premier invité sera le gouverneur de province, Denise Maéo.
C'est à 17h, heure de l'Est, que le premier décrochage provincial sera lancé à Lubumbashi. La cérémonie aura lieu dans l'enceinte de la MONUC. Toutes les autorités de la province du Katanga seront au rendez-vous. Et le gouverneur de province, Dr Urbain Kisulangoy, sera reçu en direct dans la rubrique « Questions du jour ». Le gouverneur aura ainsi l'occasion de parler des aspects politiques, économiques et pourquoi pas sportifs de sa province. Le décrochage qui sera lancé tout à l'heure à partir de Lubumbashi est une première expérience d'un décrochage provincial de Radio Okapi. Il couvrira non seulement les informations de Lubumbashi, chef-lieu du Katanga, mais aussi des informations de l'intérieur de cette province telles que Dilolo, Bukama, Sakania, Kongolo, Kalemi, Moba, etc. Ce décrochage provincial est d'autant plus important au Katanga pendant cette période préélectorale en raison du climat politique particulier de cette province, précise le chef de l'information publique de la Monique Lubumbashi. Lubumbashi, Denise Maillot, Radio Okapi.
Fin de ce journal, Alain Goye était à la technique et Pelé Kipelamondo a assuré le secrétariat de rédaction de cette édition. Merci de nous avoir suivis.